Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Benoît XVI autorise les cardinaux à anticiper la date d'entrée en conclave. Un décret a été publié ce lundi à 3 jours de la fin inédite d'un pontificat. Un début de semaine intense marqué par la rencontre entre le pape et la commission cardinalis chargée de mener une enquête approfondie au sein de la curie romaine. Compte rendu et analyse dans ce magazine qui sera une fois encore dominé par la renonciation de Benoît XVI. Mais nous prendrons également le temps de parler du travail de Caritas dans la région du Sahel et du Sud. Le linceul de Turin qui n'en finit pas d'interroger les experts, les fidèles et même les non-croyants. Texte était attendu depuis plusieurs jours. Un décret du pape a été publié ce lundi, 3 jours avant la fin du pontificat de Benoît XVI. Le pape autorise les cardinaux à anticiper la date d'entrée en conclave à condition que tous les cardinaux électeurs soient présents à Rome. Le décret pontifical, sous forme de motu proprio, apporte des modifications à un certain nombre de normes de la constitution apostolique Universi Dominici Gregis afin d'assurer le bon déroulement de l'élection du pontife romain. Des mesures concrètes sont prises. La lettre indique notamment qu'aucun cardinal électeur ne peut être exclu de l'élection. Elle apporte des détails liturgiques et quelques points techniques assurant la confidentialité du vote. Antonino Gallofaro.
Avec ce décret, le pape n'entend pas dicter un calendrier aux cardinaux. Benoît XVI permet en fait une plus large interprétation du texte. Au moins 15 jours sont toujours prévus pour attendre les cardinaux et s'ils sont tous présents à Rome, ils peuvent très bien anticiper le début du conclave. Mais même tous réunis, ils peuvent décider plutôt de consacrer ces jours à la discussion. Le pape souhaite juste leur faciliter le travail, rien de plus. La décision finale reviendra au collège des cardinaux, réuni en congrégation générale dès le 1er mars, dès le début de la vacance du siège apostolique. Au plus tard, 20 jours après cette date, par contre, ils devront procéder à l'élection du nouveau souverain pontife. Restent 2 points importants de ce décret. Le premier, le système d'élection. Il faut au moins 2/3 des suffrages pour élire le nouveau pape. Au moins 2/3, car le nombre de cardinaux électeurs peut varier durant le conclave. En cas de ballottage, par exemple, les 2 cardinaux à avoir recueilli le plus de voix ne peuvent plus voter. Aucun cardinal, pour autant, ne peut être exclu de l'élection même. Enfin, le dernier point, le secret. Toute personne, cardinale, comme celle présente pour le bon déroulement du scrutin, est tenue au secret le plus strict. Si le silence est brisé, la peine est désormais la même pour tous. L'excommunication.
Et je vous le disais en titre, Benoît XVI a reçu ce lundi matin les 3 cardinaux membres de la commission qu'il avait personnellement chargé de faire toute la lumière sur les fuites de documents confidentiels de l'appartement pontifical. Les cardinaux ont mené depuis avril dernier de très nombreuses auditions dont ils ont rendu compte régulièrement au pape. À quelques jours de son départ, Benoît XVI a voulu les remercier de leur travail efficace et se féliciter de l'issue de cette enquête approfondie. Olivier Bonnel.
L'enquête a permis de des limites et des imperfections humaines qui caractérisent toute institution, mais aussi la générosité, la droiture et le dévouement de ceux qui travaillent pour le Saint-Siège au service de la mission que le Christ a confiée au pontife romain, souligne le communiqué du Saint-Siège. Benoît XVI a décidé que le dossier, dont il est le seul à connaître le contenu, passera exclusivement entre les mains de son successeur. La commission a donc terminé son travail, elle a été dissoute. Mais les 3 cardinaux, qui ne sont plus électeurs en raison de leur âge, participeront aux congrégations générales qui précèdent le conclave. Il n'est donc pas exclu qu'ils puissent parler aussi des résultats de leur travail. Ces derniers jours, les médias ont émis de nombreuses suppositions quant au contenu du rapport de la commission cardinalis. Dans des articles aux accents sensationnalistes, la presse italienne notamment a affirmé que le rapport avait révélé des intrigues et des scandales financiers et sexuels et démontré l'existence d'un puissant lobby gay au Vatican, ainsi que l'influence néfaste de laïcs qui auraient exercé du chantage sur certains prélats. Des nouvelles dénuées de fondement, selon le Saint-Siège, des médisances et des calomnies visant à semer la confusion et jeter le discrédit sur l'Église et son gouvernement. À l'approche de l'entrée du conclave, les articles à sensation risquent de se multiplier dans la presse, entre rumeurs et intérêts personnels, cherchant à peser sur l'élection du nouveau pape.
Depuis l'annonce de sa démission, le 11 février, Benoît XVI a accéléré la publication des nominations et des mesures qui bouclent certains dossiers en attente au Saint-Siège. Ce lundi, on apprenait ainsi que le pape avait accepté la démission présentée par l'archevêque de Saint-Andrews et Édimbourg, le cardinal O'Brien, conformément au canon relatif à la limite d'âge. Le chef de l'église écossaise, a fait l'objet de plaintes pour actes inappropriés de la part de 3 prêtres et d'un ancien prêtre. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège avait indiqué que la question était entre les mains du pape. Le cardinal écossais a par ailleurs informé le Saint-Siège qu'il renonçait à participer au conclave. Les cardinaux, rappelle-t-on, sont libres de s'auto-exclure. Ces prochains jours s'annoncent historiques dans l'histoire de l'Église et de la papauté. Le geste de Benoît XVI a suscité de très nombreuses réactions à travers le monde, au sein même de l'Église et bien sûr parmi les fidèles. Beaucoup ont loué le courage du pape, sa lucidité, son abnégation et sa grande humilité. D'autres confessent encore leur incompréhension et leur tristesse. Pour certains commentateurs, c'est le sens même du ministère de Pierre que Benoît XVI aurait révolutionné par ce geste. D'aucuns parlant de désacralisation de la fonction papale. L'avis n'est pas partagé par Fabrice Adjadj, philosophe, essayiste et directeur de l'Institut Philanthropos. Il ne s'agit pas ici de parler de sacralisation ou de désacralisation, mais de regarder à l'essence même du ministère pétrinien et de ce qu'il contribue à révéler, le Christ, véritable chef de l'Église. On l'écoute.
Le ministère pétrinien est un ministère de vicariance, c'est-à-dire que le pape n'est pas le Père, mais renvoie au Père, même si on l'appelle le Saint-Père. Le pape n'est pas le chef de l'Église, n'est pas la tête de l'Église, comme certains ont pu le dire. Parfois, on parle d'un chef spirituel à tort. Il est le vicaire de la tête, qui est le Christ. Et donc, à mes yeux, la question n'est pas d'une désacralisation ou d'une resacralisation, mais d'avoir une juste vision de ce qu'est le mystère du pontificat suprême, à savoir de renvoyer au Christ. Donc voilà, le vicaire va changer, mais le Christ est le même. Comme Jean-Paul II nous avait dit qu'il fallait repartir du Christ et avancer au large, quand Benoît XVI a écrit Porta Fidei, il a signifié qu'il s'agissait d'avoir le regard fixé sur le Christ. Et cette sorte de renonciation, d'effacement, nous signale que, attention, l'essentiel, c'est le Christ lui-même.
Quelle église laisse Benoît XVI ?
Je crois que l'Église n'a jamais été aussi jeune, contrairement à ce que certains pourraient croire. Je crois qu'elle est dans une situation historique vraiment extraordinaire. Je vais vous donner juste un exemple par rapport à une actualité récente. C'est le fait qu'on n'a jamais été aussi conscient du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire du fait que ce qu'il y a de plus spirituel est en lien avec le plus charnel. Et on l'a vu notamment récemment, par exemple, on voit l'Église, qui est quand même là pour annoncer l'Évangile, l'Esprit, eh bien on la voit défendre la différence sexuelle, par exemple, défendre le donné corporel, charnel de l'homme. Donc ce qui se joue aujourd'hui, c'est que l'Église devient non seulement dépositaire de la grâce, mais aussi la dépositaire de la nature humaine, face à un monde qui devient de plus en plus tourné vers le post-humain ou vers des fondamentalismes irrationnels, quoi. Donc vous voyez, on voit l'Église défendre la chair, défendre la raison, défendre la nature, et ça c'est une position vraiment neuve, ou en tout cas ça n'a jamais pris de tels accents auparavant.
Que garderez-vous personnellement de ce pape ?
C'est un pape que j'aime, que j'aurais beaucoup aimé. Conformément à sa devise, c'était le coopérateur de la vérité. Autant Jean-Paul II, à mes yeux, était plutôt le pape de la vie, Benoît XVI sera pour moi pour toujours le pape de la vérité. Et celui qui a insisté, je pense par exemple au discours de Ratisbonne, même au discours aux Bernardins, ou encore le très grand discours au Bundestag. Pour moi, ces 3 discours étaient très très importants. Au fait de s'ouvrir à l'ampleur de la raison, d'avoir le courage de s'ouvrir à l'ampleur de la raison.
Quel est selon vous le plus grand défi qui attend l'Église et du coup le futur pape ?
Nous sommes à une époque de grands défis anthropologiques. On vit une révolution comparable à celle du néolithique, au point de vue de la révolution des techniques, de la révolution de ce qu'on va pouvoir faire sur le corps de l'homme, sur l'univers mental de l'homme. Et donc là va se jouer quelque chose de vraiment extrême. Et c'est pour ça que je dis, là on est face à une crise anthropologique, une crise de la culture. Et donc le grand défi, ça sera justement d'être présent et de rendre témoignage à la vérité et de retrouver une confiance, je dirais, en l'humain, confiance que l'homme ne peut pas se donner à lui-même, mais simplement parce que voilà, Dieu s'est fait homme, que c'est dans le mystère de la miséricorde de Dieu que s'éclaire justement la beauté, la bonté de l'humanité.
Le philosophe français Fabrice Hadjadj, interrogé par Manuela à Fiji. Au-delà des articles de presse, des analyses et des spéculations, de nombreux catholiques tiennent ces jours-ci à exprimer leur immense gratitude au pape Benoît XVI, dont les 8 années de pontificat auront été très marquantes. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont écrit pour nous demander de transmettre leur attachement au pape. C'est le cas aussi en Amérique latine, qui abrite 42% des fidèles catholiques dans le monde, contre seulement 25% en Europe, et ce malgré la progression constante du protestantisme et des évangélistes dans cette région du monde. Actuellement, le Collège Cardinalis compte 14 cardinaux latino-américains, dont 5 brésiliens et 3 mexicains. Des pays visités par Benoît XVI pendant son pontificat. Olivier Tosserie a interrogé le père Luc Lalire, responsable du pôle Amérique latine au sein de la Conférence des évêques de France.
Beaucoup ont noté son courage et sa cohérence. Et moi, c'est ça qui m'a un petit peu marqué. Et puis d'autre part, en lisant quelques réactions par-ci par-là, il me semble aussi que pour beaucoup, celle-ci nous le rappelle que le pape Benoît XVI a vécu ce ministère pétrinien comme un service.
Est-ce que l'Amérique latine a des attentes particulières en ce qui concerne le successeur de Benoît XVI ?
En fait, les attentes sont très semblables, je trouve, à celles qu'on peut avoir en Europe. À savoir, il ne s'agit pas de savoir si le prochain pape sera latino-américain ou non, et certains cardinaux l'ont déjà clairement exprimé, mais plutôt de la richesse ou de la personnalité du prochain pape. Je crois que c'est cela qui est le plus attendu. Et du coup, comme le disait l'archevêque de Sao Paulo, qui était un cardinal, qui va participer pour la première fois à un conclave, il disait « L'important n'est pas de savoir s'il est latino-américain ou non, ce sera évidemment sa capacité à prendre en compte les questions d'aujourd'hui. » Et je crois que, bon, il me semble que c'est tout à fait, j'oserais dire, commun à bien d'autres lieux et d'autres réactions.
Quels seront les chantiers du futur pape en Amérique latine ?
En Amérique latine, je crois que le chantier le plus important est d'une part, évidemment, l'urgence, entre guillemets, de la venue pour les Jeux, aux Journées mondiales de la jeunesse à Rio, qui se déroule au Brésil. Donc ce choix de Rio n'est pas tout à fait anodin. Il se passe dans un pays qui est l'un des plus importants pays d'Amérique latine, bien sûr, mais aussi catholique. D'autre part, évidemment, cet événement est une manière, je crois, de rassembler la jeunesse, mais surtout de donner un signal pour l'Église d'Amérique latine et de son importance pour l'Église universelle. Et je crois que cela, c'est déjà une première urgence. La deuxième, ce serait un peu de soutenir les efforts de l'unité de l'Église sur ce continent, parce qu'elle est menacée comme partout, dans la mesure où il y a des courants un peu contradictoires, il y a des réalités aussi et des défis qui sont très importants et qui parfois dépassent les simples forces humaines. Donc je crois que, je pense dans les défis, en particulier la question de la violence, du délitement des États, du risque démocratique, de la corruption, de la drogue évidemment, qui sont des réalités, il ne faudrait pas non plus caricaturer l'Amérique latine, hein, mais qui sont des réalités non négligeables et dans lesquelles l'Église des différents pays essaye de lutter, de réagir, et ce n'a rien de facile ni d'évident. Et je pense que l'effort à fournir sera peut-être de ce côté-là, d'un soutien aux épiscopats, à l'Église locale, pour faire face à des défis tellement gigantesques, à mon point de vue.
Le père Luc Lalire, responsable du pôle Amérique latine au sein de la Conférence des évêques de France. Le cardinal Tarcisio Bertone a invité tous les religieux contemplatifs à prier pour Benoît XVI. Dans un courrier adressé aux monastères féminins et masculins disséminés dans le monde entier, le secrétaire d'État du Saint-Siège leur demande de prier, alors que toute l'Église suit avec anxiété les derniers jours du lumineux pontificat de Benoît XVI et attend l'avènement de son successeur que les cardinaux réunis en conclave, guidés par l'action de l'Esprit-Saint, choisiront après avoir scruté ensemble les signes des temps de l'Église et du monde. Le cardinal Bertone rappelle que le pape lui-même a demandé à tous les fidèles de l'accompagner de leurs prières au moment où il remettra son ministère entre les mains de Dieu et d'attendre avec confiance l'avènement du nouveau pape. « C'est chez vous, écrit-il, que Benoît XVI est certain de pouvoir puiser la précieuse ressource de cette foi orante qui, au cours des siècles, accompagne et soutient le chemin de l'Église. Le prochain conclave pourra ainsi s'appuyer sur la pureté limpide des prières et des louanges des contemplatifs. » Pour le secrétaire d'État du Saint-Siège, l'exemple le plus significatif de cette élévation spirituelle qui exprime la dimension la plus authentique et profonde de tout acte ecclésial nous a été offert par le pape lui-même, qui, après avoir gouverné la barque de Pierre parmi les flots de l'histoire, a choisi de se consacrer en priorité à la prière, à la contemplation et à la réflexion. unir les efforts des Caritas du Sahel pour faire face aux crises alimentaires et sociopolitiques de la région. Tel est l'objectif de la réunion qui s'est tenue du 19 au 23 février à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Les Caritas du Burkina, du Mali, du Niger et du Sénégal, qui participent depuis 2007 à la plateforme des Caritas du Sahel, étaient représentés à cette réunion, ainsi que des responsables d'information et des opérations d'urgence. L'objectif était de renforcer la communication régionale entre les organisations humanitaires catholiques pour leur assurer une meilleure visibilité. Les participants ont par ailleurs adopté un projet régional de réponse d'urgence à la crise malienne. Ils ont notamment convenu de partager des informations sur la situation des personnes déplacées à l'intérieur du Mali. Une mission a présenté un compte-rendu sur les conditions de vie dans les camps de réfugiés. Pendant le déroulement des travaux, nous avons joint le père Isidore Ouedraogo, secrétaire exécutif de Caritas Burkina.
Nous voulons vraiment mutualiser nos moyens. Nous avons rendu compte que chaque pays avait déjà un site et avait un communicateur. Et donc, les informations qui passaient dans l'un ou l'autre site n'étaient pas automatiquement reprises par nos communicateurs au niveau des pays. Et en ce qui concerne la réponse à la crise, nous avons l'intuition que la communication était un maillon essentiel, à la fois pour faire comprendre qu'est-ce que la Caritas et l'Église catholique de manière générale fait pour les populations locales, les populations déplacées et les réfugiés.
Quelle est l'influence de la situation au Mali au niveau du Sahel?
Bon, l'influence majeure, c'est que nous avons déjà des réfugiés au Niger, au Burkina et un peu, bien sûr, en Mauritanie et éventuellement au Sénégal. Quand je prends l'exemple du Douri, la région du nord du Burkina, qui a reçu près de 43 000 personnes, sont venues s'installer dans cette région. Cela a impacté et a orienté automatiquement nos actions vers ces populations-là, tout en tenant compte que nous avions des actions de développement déjà avec les populations hôtes.
Quel est le message de Caritas au Sahel?
Essentiellement orienté vers la cohésion sociale et l'harmonie de la société à travers nos actions. L'idée fondamentale était de dire notre rôle, quelquefois nous sommes minoritaires en tant que chrétiens dans la sous-région, notre rôle est d'établir un dialogue de vie entre les populations à travers les actions à la fois humanitaires et de développement.
Le secrétaire exécutif de Caritas Burkina, interrogé par Jean-Baptiste Cocagne. Saint-Suaire et nouvelle évangélisation, c'est le thème d'un congrès qui aura lieu les 1er et 2 mars prochains à l'Université pontificale Regina Apostolorum de Rome dans le cadre de l'année de la foi. Ce congrès s'articulera en deux séances, Saint-Suaire et kérigme et Saint-Suaire et communication, animés par de grands spécialistes du linceul de Turin. Le programme très dense prévoit des moments de réflexion, un concert et la lecture publique des extrait de Jean-Paul II sur le Suaire. Ce congrès est placé sous l'égide des conseils pontificaux de la culture et pour la promotion de la nouvelle évangélisation ainsi que du bureau des communications sociales de la conférence épiscopale italienne. Le père Raphaël Pasquale, promoteur du congrès, souligne que le Suaire est un signe qu'il faut s'efforcer de comprendre, de lire et d'interpréter. Un signe qui nous parle de Jésus et qui nous conduit au cœur du christianisme. Le Saint-Suaire offre aux chrétiens un langage pour transmettre la bonne nouvelle. L'évangile lui-même nous dit que le disciple Jean, qui était arrivé le premier au sépulcre, vit et il crut. Ce congrès, qui sera assorti d'une exposition, ne sera pas une rencontre entre spécialistes. Il sera ouvert au public, aux croyants, comme à ceux qui sont sceptiques, ajoute le père Pasquale. Car le Suaire est une réponse à la provocation des non-croyants, comme pour dire « Voici un signe, si tu veux croire, tu en as la possibilité avec l'aide de ce signe ». Les condoléances du pape après la disparition du cardinal belge Julien Ris, décédé samedi à l'âge de 92 ans. Dans un message à l'évêque de Tournai, Mgr Guy Arpini, le pape qualifie le cardinal Ris d'homme de foi éminent qui a fidèlement servi l'Église. Par l'enseignement et la recherche, particulièrement dans le domaine de l'histoire des religions dont il était un spécialiste reconnu, il a toujours eu le souci, écrit le pape, de témoigner de sa foi parmi ses contemporains dans un esprit de dialogue. Le cardinal Ris a beaucoup œuvré au dialogue des religions. Il avait été créé cardinal par Benoît XVI le 18 février 2012 pour son œuvre théologique. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Et n'oubliez pas de recourir aux applications de Radio Vatican en français pour tablette et smartphone.